9h, 10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon dimanche, bienvenue dans C'est arrivé demain. Qu'est-ce qui se joue à Londres au procès en extradition de Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, qui risque 175 ans de prison aux États-Unis pour espionnage? Je vais poser la question à Christophe Deloire, le secrétaire général de Reporters sans frontières. Il est en direct dans ce studio. Je recevrai ensuite la romancière Christine Jordis. Elle va nous expliquer comment s'opposent aujourd'hui dans notre pays la prudence et la passion. Et le comédien Jacques Weber, qui a attendu 35 ans pour nous raconter la pire trouille de sa vie. Bonjour Christophe Deloire.
Bonjour.
Pour beaucoup de gens, Julian Assange est un type louche, un mélange de pirates informatiques, d'espions, de terroristes, de hippies et de violeurs. Pourquoi vous le défendez avec Reporters sans frontières ?
Alors s'il était ça, si on était convaincu qu'il était ça, on ne le défendrait pas. Julian Assange, moi j'approuve pas nécessairement tout ce qu'il a fait. Et notamment au moment où, à la fin de sa réclusion à l'ambassade d'Équateur à Londres,
il a
tenté d'orienter des élections, ce qui n'était pas la meilleure idée. Néanmoins, le portrait que vous venez de faire, c'est un montage. C'est une construction de propagande, et notamment nourrie par des services de renseignement. Et j'ai franchement pas l'habitude d'être un complotiste, on est en mesure de le prouver désormais. Pendant longtemps, il y a eu des formes de suspicion. Il y a un Suisse très sérieux qui est rapporteur spécial sur la torture à l'ONU, qui s'appelle Nils Melzer, qui a fait un rapport absolument passionnant. Et pour partir du début de ce qui a d'ailleurs fait qu'à certaines périodes, des organisations, des médias ont hésité à défendre Assange, ont pris des distances avec lui, les affaires de viol en Suède. Il est établi désormais que ces deux accusations, il y a une procédure pendant 9 ans.
Elle a été abandonnée.
9 ans, qui a été abandonnée en juillet 2019, faute de charges. Mais qui a été un moyen de le retenir, finalement, de l'obliger à rester dans cette ambassade, de peur d'être extradé aux États-Unis. Puisque lui disait qu'il y avait une procédure aux États-Unis, Assange, ce que personne ne savait à l'époque, mais ce qui s'est révélé absolument exact.
Et ce qui a fait que François Hollande aussi lui a refusé l'asile politique quand il le lui a demandé. Il a dit, je ne peux pas, il y a un mandat européen. Et c'était la Suède à ce moment-là.
Lorsque Assange est accusé de viol en Suède, ce qui est le début de ces problèmes, c'est pourquoi il est obligé à rester en Angleterre, puis il trouve refuge à cette ambassade d'Équateur. En fait, le tout début, il y a deux jeunes suédoises, qui rentrent dans un commissariat et l'une d'entre elles ne l'accuse absolument pas de viol. Elle dit avoir eu avec lui un rapport consenti, mais sans préservatif, et voudrait savoir si elle peut exiger de Julian Assange, vu la loi suédoise, de faire un test. Quelques heures plus tard, à la une d'un des journaux tabloïds suédois, il apparaît Assange, rapist, violeur. Et puis, les procès-verbaux sont modifiés. C'est désormais établi. Bref, il y a eu un vrai montage dès le début. Et des années plus tard encore, lorsque la justice suédoise voulait abandonner ses charges, il apparaissait que la justice britannique, des magistrats britanniques, disaient à leurs collègues suédois « Maintenez ces charges, on a besoin que vous les mainteniez ». Sur d'autres éléments de cette enquête, on peut prouver que, voilà, d'Assange, on a fait le diable pour mieux faire oublier quand même que c'est un homme qui... Alors, on peut dire qu'il est journaliste, pas journaliste. En tout cas, il a apporté une énorme contribution au journalisme puisqu'il a facilité et fait en sorte que certaines des révélations sans doute les plus importantes de ces dernières années soient faites, et notamment sur les crimes de guerre commis par les États-Unis en Irak et en Afghanistan.
C'est la défense d'Assange. Hein. Il dit qu'il est un journaliste poursuivi par les autorités américaines du fait de ses activités professionnelles parce que, dit-il, il a révélé, preuve à l'appui, que les États-Unis avaient commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Aux États-Unis, il est poursuivi depuis 10 ans maintenant, en fait, pour espionnage. Alors, le fait d'appeler des journalistes, ou du moins ceux qui se considèrent comme journalistes, les appeler des espions, c'est un vieux truc. Hein. Des États, ça s'est toujours produit. Mais justement, quelle est la différence? Au fond, quelle est la différence entre un journaliste et un espion? Qu'est-ce qui fait qu'un journaliste n'est pas un espion et qu'un espion n'est pas un journaliste?
Alors, ce que je disais, c'est que nous, on ne prétend pas qu'il est journaliste. On prétend qu'il a apporté une très grande contribution au journalisme. Et en fait, c'est un cas un peu particulier. C'est une innovation totale, Wikileaks. Ce n'est pas une source, puisque la source, c'est Chelsea Manning. Ce n'est pas lui qui, à l'origine, dispose des informations, qui était ce whistleblower, ce lanceur d'alerte. À l'époque masculin, désormais féminin, qui est soldat américain et qui transfère, semble-t-il, les données à Julian Assange. Mais Julian Assange, c'est quelqu'un qui quand même traite l'information, collecte la source et fait en sorte qu'elle soit diffusée. Donc, il n'y a pas de contestation possible sur le fait qu'il apporte une grande contribution à des informations d'intérêt public. Si ça, ce n'est pas d'intérêt public, si ce n'est pas d'intérêt public de connaître cette vidéo qui s'appelle Collateral Murder, où on voit un hélicoptère américain qui tourne autour d'une camionnette et qui finit par tirer, qui tue un journaliste de Reuters et son assistant, et des crimes, il y en a d'autres, et plus importants dans les révélations de
WikiLeaks. C'est pour ça qu'il a poursuivi. Il a diffusé, depuis 2010, à peu près 700 000 documents classifiés sur les activités militaires américaines, sur ses activités diplomatiques et sur ses activités de renseignement. Si l'on sait aujourd'hui que 3 de nos présidents ont été écoutés par la NSA, c'est grâce à Julian Assange.
Un espion, contrairement à un journaliste, ça ne cherche pas à divulguer des informations. Ça cherche à les garder confidentielles et à les transmettre à un pouvoir, alors que Julian Assange, intellectuellement et par sa fonction à Wikileaks, c'est quelqu'un qui veut lutter contre ce qu'il appelle l'asymétrie informationnelle entre les États et les citoyens, les individus. C'est quelqu'un qui veut rétablir un équilibre des pouvoirs sur le plan informationnel et donc porter à la connaissance du public. Donc, dire de Julian Assange qu'il est un espion, c'est d'une mauvaise foi terrible. Il est accusé aujourd'hui de 18 chefs d'inculpation, dont 17 sous l'Espionnage Act, qui est une loi qui remonte à la Première Guerre mondiale, qui avait été largement réactivé par Obama.
On se souvient, en 1917, il y avait le fameux télégramme de Mexico, envoyé par l'Allemagne au Mexique en 1917 et intercepté par les services secrets britanniques, qu'il avait rendu public, justement. Et ça avait précipité l'entrée des États-Unis dans la guerre. Là, on peut dire qu'un cas d'espionnage avait consisté à rendre public un document. Donc, comme quoi, c'est toujours un peu compliqué, quand même, la différence entre l'espion et le journaliste. Le fait que l'espion garde des informations pour lui, que le journaliste les diffuse, c'est jamais aussi simple que ça.
Et dans ce cas-là, il y a la dépêche d'Ems dans l'histoire, il y en a d'autres. Mais ce n'est pas rendre public des documents de manière sincère. C'est au fond un outil de propagande où le cachet ont déformé un document. Ce n'est pas du tout ce qu'a fait Julian Assange, où il y a aussi une forme de tri, d'éditorialisation. Alors, c'est vrai qu'il y a eu deux périodes. Il y a une période où il est passé à travers le filtre de grands médias. C'est quand même quelqu'un qui fournit des informations au Monde, Guardian, New York Times, Washington Post, et Spiegel, etc. Et puis après, il y a une publication plus large qui lui est reprochée.
Oui, on y revient juste après une pause.
Europe 1, c'est arrivé demain. Frédéric Taddeï.
Nous sommes avec Christophe Deloire, le secrétaire général de Reporters sans frontières. Julian Assange, on s'en souvient, a révélé environ 250 000 câbles diplomatique américain et il l'avait fait en partenariat, vous l'avez rappelé, avec de grands journaux. Mais à ce moment-là, il y avait moult précautions. Ensuite, Wikileaks a fini par les publier, les 250 000, mais dans leur intégralité sur Internet, avec les noms. Et la révélation de l'identité de certaines personnes pouvait les mettre en danger. Et il l'avait fait en dépit des mises en garde du gouvernement américain et même d'organisations des droits de l'homme. Alors là, on lui a dit, mais est-ce que c'est encore du journalisme, ça, de tout à coup, de tout balancer. Il n'y a plus de traitement de l'information. On balance comme ça sur Internet. Ça lui est reproché. De même, le ministère de la Justice américain l'accuse d'avoir recruté des hackers. Alors, les défenseurs d'Assange disent qu'il s'agit d'un mensonge, un de plus. Mais la question est intéressante. Un journaliste peut-il recruter des pirates informatiques ou des cambrioleurs pour obtenir des informations? Les deux activités étant considérées, étant assimilées. Hein, dans les deux cas, il y a intrusion et intrusion illégale. Est-ce que là aussi, ça ne s'arrête pas, le journalisme, au moment où il y a intrusion?
Mais bien sûr qu'un journaliste ne peut pas tout faire. Mais là, il y a des rideaux de fumée. On mélange en fait des choses distinctes. Est-ce qu'il fallait diffuser ces documents dans leur intégralité sans les filtrer? Moi, je vais être très franc, au nom du journalisme, je ne crois pas. Moi, je crois à la vertu du filtre. Et je pense qu'il faut assumer que dans les sociétés, il y ait des formes de filtres parce qu'il faut une protection, alors pour partie une protection des États. Il y a quelques secrets qui sont utiles à la souveraineté, à la défense, qui sont légitimes. Le problème, c'est que quand il y a une extension, et c'est le cas maintenant aux États-Unis, une extension faramineuse de la protection des secrets d'État. Et puis, il y a la question de la protection des personnes. Et celle-là, elle est légitime. Mais Assange, il n'est pas poursuivi pour ça. Là, l'essentiel des 18 chefs d'inculpation, c'est pour être allé rechercher des informations. Et donc, si nous, on le défend aujourd'hui, c'est qu'au fond, s'il était extradé, s'il était condamné, alors potentiellement à 175 ans de prison, il y aurait un aspect humain pour lui, Mais plus largement, ça serait un très grand danger pour le journalisme, parce que ça serait une forme de criminalisation du journalisme. Et ça, des grands journaux américains l'ont bien compris. Des grands journaux qui, au moment des accusations en Suède, s'étaient abstenus de le défendre, maintenant se rendent compte du danger. Moi, j'ai rencontré il y a quelque temps le directeur juridique du New York Times. Je lui ai demandé quels sont pour vous les plus grands dangers pour la liberté de la presse aux États-Unis. 1. Donald Trump. 2. L'affaire Julian Assange. Parce que ce serait un très dangereux précédent. Alors, sur la question de recruter des hackers. Non, ce n'est pas franchement du journaliste que de recruter des hackers. Mais lorsque Assange révèle ces informations pour lesquelles il est poursuivi aujourd'hui, ce n'est pas à travers des hackers, c'est à travers un soldat américain, donc une source à l'intérieur de l'armée américaine, qui manifestement lui transmet des informations. Et demander à une source de transmettre des informations, moi j'étais journaliste d'investigation pendant 10 ans, je l'ai fait souvent. Ça, c'est un geste journalistique normal. Si il n'y avait pas de source qui trahisse un secret à un moment, il n'y aurait que de l'information officielle, il n'y aurait que de la publicité, de la propagande.
La source est reconnue, c'est l'intrusion qui est...
L'une des grandes références du journalisme dans le monde, qui est l'américain Joseph Pulitzer, il y a le fameux prix Pulitzer qui est tiré de son nom, disait qu'une information donnée n'avait pas d'intérêt. On avait les informations volées. Ce qui ne veut pas faire des journalistes des cambrioleurs, évidemment.
Bon, alors, on se souvient, je l'ai rappelé, qu'il avait demandé l'asile politique à la France en 2015, Julian Assange, et François Hollande avait fini par la refuser. Christiane Taubira était pour, Manuel Valls était contre. C'est Manuel Valls qui l'a emporté. Aujourd'hui, on se souvient qu'il y a encore peu, au mois de février, son avocat en France, Éric Dupond-Moretti, s'apprêtait à aller plaider sa cause auprès d'Emmanuel Macron, et là aussi demandait à Emmanuel Macron de lui accorder l'asile politique. Bon, depuis, il y a eu le confinement, et Éric Dupond-Moretti est devenu ministre de la Justice. Mais on voit bien qu'il y a une sorte de solidarité entre États pour préserver le secret. Le secret défense, le secret d'État. Au fond, les États nous disent implicitement on ne gouverne pas sans secret, il n'y a pas de défense sans secret, il n'y a pas d'affaires sans secret, il n'y a pas de diplomatie non plus. Pour Assange, au contraire, il y a trop de secrets. Il faut les dévoiler, les secrets, y compris les secrets d'État. Est-ce que ça ne se joue pas là, le procès Assange, aujourd'hui en extradition ?
Alors moi, je ne suis pas totalement certain. Je pense que même les États européens ont eu intérêt au dévoilement de certains secrets américains sur le comportement de l'armée américaine en Irak et en Afghanistan, mais aussi plus récemment lorsqu'Edward Snowden a révélé les écoutes par les services secrets américains, des conversations téléphoniques de dirigeants européens et notamment
Angela Merkel.
Et donc, il y a une forme d'intérêt. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que c'est une procédure qui est entre la Grande-Bretagne, entre le Royaume-Uni, qui évidemment a une forme de vindicte contre Assange, puisqu'il y a eu des révélations qui étaient gênantes également pour le Royaume-Uni, et les États-Unis. Et je pense qu'il y a une forme de... chacun doit se demander... quel est l'intérêt politique de le faire ? Moi, je me souviens, il y a quelques années, j'ai parlé à un responsable politique français qui était à l'époque candidat à la présidentielle, et je ferai en sorte que personne ne puisse le reconnaître. Je dirais simplement, il n'est pas aujourd'hui président. Et à qui j'avais parlé de ce dossier Assange. Et il m'avait répondu que sur le fond, il était complètement d'accord, mais qu'en tant qu'homme d'État, jamais il ne ferait en sorte qu'Assange vienne en France ou il ne défendrait publiquement Assange de peur des mesures de rétorsion américaines. Et de la violence, dans ce cas-là, des mesures de rétorsion. Alors la question, c'est en face, quel esprit de liberté on peut mettre ? Et nous, aujourd'hui, on appelle vraiment les États européens, particulièrement la France, des États extra-européens. Il y a eu une demande en Suisse récemment à accorder l'asile politique à Assange, parce que très clairement, il y a une persécution judiciaire aujourd'hui contre Assange. Et vous parliez de la conférence de presse de Dupond-Moretti en février. On l'avait organisée à Reporters sans frontières avec Éric Dupond-Moretti, cette conférence de presse. Maintenant, il est devenu ministre. Il serait absolument logique, légitime, et nous lui demandons d'utiliser toute son influence aujourd'hui pour obtenir ce qu'il requérait en tant qu'avocat. Et à l'époque, il le demandait à Emmanuel Macron. J'ai vu que lorsque la demande lui a été faite plus récemment, il a dit que c'était l'OFPRA, l'Office français des réfugiés apatrides, qui s'en occupait. Donc il a renvoyé ça à l'administratif. Mais très clairement, on a besoin là-dessus de volonté politique.
Le procès a commencé depuis une semaine, il reprend demain. On avait dit qu'il durerait environ 2 ou 3 semaines avant que la juge Vanessa Baretzer finisse par décider si Julian Assange doit être extradé ou pas. Vous vous y rendez régulièrement
moi, je suis allé aux premières audiences qui étaient en février. Il y avait une première semaine d'audience. C'était d'ailleurs stupéfiant, cette salle d'audience près de la prison de haute sécurité de Belmarsh, où il est encore détenu. Où Assange était très clairement affaibli, il est encore plus depuis, derrière une vitre, comme un dangereux terroriste, ayant du mal à entendre ce que disait le tribunal, avec des arguments qui étaient assez délirants parfois de la part des avocats représentant les États-Unis. Et depuis d'ailleurs, les États-Unis ont amendé à 2 reprises leur acte d'accusation. Enfin, ils surchargent à chaque fois, ils en rajoutent. Ils sont quand même relativement mal à l'aise. Et là, il y a eu à nouveau des audiences cette semaine. Et je dois dire que les ONG n'y étaient normalement pas autorisées à entrer dans la salle d'audience. Reporters sans frontières, notre représentante à Londres, a été la seule à pouvoir accéder à l'audience.
Merci Christophe Deloire. Le procès reprend donc demain. On se retrouve dans un instant avec la romancière Christine Jordis.
9h, 10h, c'est arrivé demain. Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Christine Jordis, Prudence et Passion, votre nouveau roman est une retransposition de Raison et Sentiment, le chef-d'œuvre de Jane Austen, mais c'était paru en 1811. Vous l'avez retransposé dans la France d'aujourd'hui, les deux sœurs, Elinor et Marianne, 19 ans et 17 ans. La raisonnable et la passionnée sont devenues Elena et Marianne, 20 ans et 18 ans. La prudence et la passion ?
À la plus grande, qui est très sage, c'est la raison. C'est Elena en anglais, Elena donc pour moi, et Marianne est restée Marianne. Et Marianne, qui est la plus jeune, est donc la passion. Mais ça, c'est pour suivre Jane Austen, parce que l'âge n'y est pour rien. Il y a des gens qui naissent sages, et il y en a d'autres qui meurent fous, ou à demi-fous, à 80 ans, vous voyez. Donc pour moi, c'est vraiment pas une question d'âge.
Jane Austen, c'était une moraliste. Elle était aux prises au début du 19e avec le romantisme, qui était très, très fort en Angleterre à cette époque-là. Le romantisme qui s'élevait contre la raison, prônée par les Lumières, qui célébrait à la place le subjectivisme, l'individualisme, la spiritualité, l'exotisme, le sublime. Aujourd'hui, elle célébrait contre quoi Jane Austen et contre quoi s'élève Éléonore ?
Écoutez,
Elena, pardon.
Si j'ai pris Jane Austen, c'est pas tant pour comparer deux siècles absolument différents, comme on pourrait le croire, à savoir le 19e et le 20e et le 21e. Ce serait idiot de faire ça. Donc c'est pas ce que j'ai voulu faire. J'ai voulu prendre Jane Austen parce que Jane Austen était conservatrice. Alors l'autre jour, on m'a objecté qu'elle n'était pas conservatrice dans sa vie puisqu'elle écrivait, mais au contraire très audacieuse. Faux, ai-je répondu. Bien sûr, elle était audacieuse en tant qu'écrivain, mais toute son œuvre est conservatrice. Toute son œuvre prouve qu'elle aimait l'ordre et qu'elle le défendait parce qu'elle croyait que l'ordre était peut-être la meilleure base et situation pour être le moins malheureux possible. Donc j'ai pris Jane Austen, non pas encore une fois à cause des différences d'époque et de contraintes et de pressions auxquelles nous sommes soumis, mais parce qu'elle a trouvé moyen de nous donner des conseils à travers ses héroïnes sur la meilleure méthode à tenir au milieu des pressions qu'exerce une société quelle qu'elle soit, que ce soit au 19e où les contraintes étaient féroces, ou au 20e, 21e où elles le sont. De façon très lâche, mais très insistante, très insidieuse, elle nous a donné une façon de penser, de nous retirer, d'essayer d'être nous-mêmes, d'être comme l'aiguille d'une boussole qui indique la bonne direction. Et je crois qu'à l'heure actuelle, c'est très très important de pouvoir se retirer, trouver un moment de solitude, exister dans le temps présent et par soi-même, pour penser. Et non pas suivre ni répéter, comme nous le faisons à longueur de journée, les dictats ambiants. Voilà mon idée en prenant Jane Austen.
C'est vrai que votre héroïne, Elena, se retrouve face à toutes les polémiques, au fond, qui traversent la société française depuis ce début du XXIe siècle, sur les migrants, sur les gilets jaunes, sur les violences policières, sur Greta Thunberg, sur la PMA, sur l'islam, sur le décolonialisme, sur MeToo, même sur Gabriel Matzneff.
Vous m'intimidez, François. tout ça bien, si. Me dit quelle ambition m'a prise.
Il y a tout ça. Il y aurait une espèce de volonté de révolution animée par la culpabilité, la rancune, la haine parfois, qui seraient les moteurs des idéologies de notre époque. Vous le ressentez comme ça, Christine Jourdis?
Moi, je le ressens comme ça. Je trouve que notre époque, c'est bien banal à dire, mais est très très dure. Et moi, pour moi, elle est très dure parce que j'y constate un constant déni de réalité. C'est-à-dire que mon souci principal, comme celui de la plupart des gens, je crois, sinon de toute la presse, c'est d'arriver à une forme de vérité devant les faits. Or, quel que soit le sujet abordé, vous en avez cité énormément tout à l'heure, que j'aborde à travers les discussions entre mes jeunes, quel que soit le sujet abordé, on s'aperçoit que les questions sont traitées non pas dans un souci de vérité, mais dans un souci idéologique. Et ça, je le refuse, voyez-vous. Je refuse l'idéologie du politiquement correct. Je refuse cette espèce de parti pris qui fait qu'on va condamner une chose systématiquement parce qu'un terme aura été prononcé. Par exemple, droite. Le mot droite ou le mot conservateur, comme l'était Jane Austen. C'est pour ça que j'ai pris le mot conservateur. Eh bien, immédiatement, vous êtes traité de xénophobe, de mal appris, de pauvre type, d'imbécile. Enfin, on vous met dans un sac fourre-tout aussi ignominieux que possible.
Vous avez oublié réactionnaire.
Hein?
Vous avez oublié réactionnaire.
Oui, j'ai oublié réac, et pourtant je le dis dans mon livre un certain nombre de reprises. Réac et je m'en fous. Oui, mais ne soyons pas trop réac quand même. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de prendre position dans mon livre. Il s'agit ni de refuser l'engagement d'ailleurs. Il s'agit de garder une certaine distance vis-à-vis de ce qu'on entend, de ce qu'on proclame, de ce dont on nous bourre les oreilles à longueur de journée. Pas pour tomber dans un excès ni dans un autre. Mon but, c'est justement d'éviter les excès et des positions qui sont faciles à prendre, puisque l'excès, il est facile de tomber dans l'excès, il n'y a pas de doute. Ce qui est difficile, c'est le doute, c'est la modération, c'est l'exigence du juste milieu. Et oui. Là, je peux parler du juste milieu pendant des heures, mais vous ne me laisserez pas et vous aurez raison.
Mais c'est vrai que c'est votre héroïne, Elena, au fond, comme Jane Austen, hein, elle veut rester calme, elle veut garder son sang-froid, elle veut continuer de réfléchir, elle veut rester modérée. Et si le prix à payer, c'est de se mettre en retrait, eh bien, elle se met en retrait, au fond.
Absolument, quitte à souffrir. Car souvent, penser, se mettre en retrait égale souffrir. C'est ce que dit Jane Austen et j'ai repris certaines de ses phrases, ce dont les lecteurs anglicistes se rendront peut-être compte. Mais la modération est la chose la plus difficile qui soit. C'est exténuant, la modération. Parce que ça représente justement de combattre en permanence contre les tentations de l'excès, de l'indignation qui vous viennent. Moi, vous savez, ce livre de Stéphane Hessel, Indignez-vous, qui a eu tant de succès auprès des jeunes, eh bien Jane Austen aurait trouvé ça désastreux. Voilà. Et ça.
L'indignation, c'était du côté de la passion, pas du côté de la prudence.
C'est du côté de la passion, mais alors le côté de la passion est illustré par Marianne, qui est extrêmement séduisante et belle et pleine de vitalité. Et donc, je défends aussi le côté de la passion. C'est. Après tout, il est séduisant, le côté de la passion.
Oui, mais avec moins d'acharnement, hein, on sent. Prudence et passion, c'est le titre du nouveau roman de Christine Jourdis, qui, évidemment, est paru chez Albin Michel.
Europe 1, c'est arrivé demain. Frédéric Taddeï.
Bonjour Jacques Weber, à partir du 22 septembre, vous serez au Théâtre de l'Atelier dans Crise de nerfs, trois farces de Tchekhov, mise en scène de Peter Stein, et vous faites paraître au Cherche Midi, Paris-Beyrouth, alors rien à voir avec la catastrophe de cet été qui a détruit le port de Beyrouth et fait près de 200 morts, c'est le récit d'un tournage à Beyrouth il y a 35 ans, en pleine guerre civile. Pourquoi aujourd'hui racontez-vous ça?
Bon, peut-être parce qu'il fallait le temps que ça se décante un peu, puis le fait aussi que je me rende compte que je n'arrêtais pas de raconter tout ce qui m'était arrivé là-bas, donc ça m'avait marqué. Et à un moment, me rendant compte aussi que je prenais de plus en plus plaisir à écrire, je me suis dit que, après tout, c'était pas mal que j'essaie de le raconter avec élégance et distance, et puis aussi avec un âge un peu plus avancé que lorsque je l'ai vécu. Voilà.
Alors, il s'agit d'un aveu quand même. C'est un livre sur la peur. En fait, vous débarquez là-bas avec votre femme, vous avez 35 ans, vous venez de jouer Cyrano à Mogador, et on est en septembre 84, et vous allez tourner Une vie suspendue, hein, réalisée par Jocelyne Saab. Et dès le premier soir, votre voiture est contrôlée par des gamins armés de Kalachnikov. Ils en pointent une sur la poitrine de votre femme, l'autre sur votre tempe, et c'est la première fois que, de votre vie, hein, que vous êtes menacé de mort. Et au fond, à partir de là, vous allez avoir la trouille en permanence. Et ça, c'est toujours difficile à avouer.
Oui, moi, ça n'est pas difficile. Enfin, en tout cas, c'est la réalité. J'aime bien que vous disiez que c'était un livre sur la peur, parce qu'après tout, ça commence par une peur, mais qui n'a rien à voir, qui est la peur de l'acteur d'être tout simplement moins bien, ou de ne pas être entendu, ou d'être mal vu. C'est comme ça que ça arrive, puisque au début, j'en parle, j'ai une aphasie, une aphonie.
Vous avez un rat dans la gorge. Comme
un rat dans la gorge, c'est vrai. Et d'ailleurs, ça vient d'une chose réelle. Un jour, j'ai couché avec un rat, j'étais terrifié de peur aussi. Et puis après, ben, on se rend compte qu'en opposition à cette mort, à cette peur un peu abstraite, là, il y a une peur tout à fait concrète, une peur charnelle, physique, physiologique, hallucinante, face à un élément extrêmement concret qui est un môme de 15 ans qui vous braque avec une main tremblante. C'est un obus qui ne pète pas, qui tombe à 5 mètres de la voiture. Enfin, c'est tous les jours comme ça. Et c'est vrai que j'ai vu ce que c'était, non seulement de reprendre le goût, c'est ça que je trouve paradoxal et intéressant. Je ne suis pas le premier à l'avoir traité, ce sujet, mais c'est vrai que être confronté à ce point-là, à la peur de perdre la vie, vous redonne bien évidemment un goût quasiment fasciné de l'existence, du désir, de la joie, le moindre moment joyeux devient absolument transcendé.
Il enfin, n'y a pas que étonnant. Ça, quand vous êtes contrôlé le premier soir et que vous êtes terrifié, vous pensez à votre fils qui a un an et demi que vous avez laissé à Paris, mais en plus, après, il y a la rancœur. Une fois que les gamins sont partis, il y a une espèce de rancœur énorme.
Oui, parce que je trouve inadmissible qu'on m'ait menti au départ. Alors après,
on vous a menti parce qu'on vous a dit non, il ne se passe plus
menti,
rien à Beyrouth.
Oui, il fallait à tout prix faire ce film, mais ça, après, au bout d'un moment, j'ai réussi un peu à le comprendre, et je n'en veux à personne, bien évidemment, mais sur le coup, quand d'un seul coup, vous vous rendez compte que pour un film, ce qui est quand même d'une folle légèreté par rapport justement à la guerre et aussi par rapport au fait de risquer sa vie, enfin, je trouve inadmissible qu'on m'ait demandé, sans me prévenir, de risquer ma vie. Ça, et il y a, oui, une grosse rancœur. Je suis furibard parce qu'à un milliardième de seconde près, je me retrouvais avec le cerveau explosé comme Kennedy. Je dis ça parce que l'image m'est venue au moment où ça m'est arrivé.
Et non, ce que j'ai trouvé très intéressant en le lisant, Jacques Weber, on est habitué à vous entendre élever la voix, que ce soit sur une scène de théâtre ou parfois dans des émissions de télévision. Et là, on vous entend élever la voix, mais pour d'autres raisons. C'est-à-dire qu'en gros, vous voulez partir, vous voulez rentrer à Paris.
Ben oui, oui.
Et j'imagine bien votre voix de stentor s'élever sur le plateau de tournage, mais pour réclamer « j'ai peur, foutez-moi la paix, je veux partir
oui. ». Et en même temps,
on n'imagine pas Jacques Weber dire ça.
Ben oui, mais
pour ça, il est comme tout le monde.
Je suis comme tout le monde et je mets au défi de quelqu'un qui se retrouve avec un truc sur la tempe de dire qu'il n'a pas peur. C'est pas possible.
Ouais.
Ça fout quand même les jetons.
Mais y a pas
c'est
que ça,
l'histoire
hein.
du dialogue des Carmélites. Hein, ouais. Voilà.
Il n'y a pas mais que ça. Vous êtes en train de tourner dans un théâtre. Tout à coup, ça tire dehors. Les types rentrent dans le théâtre, se mettent à tirer dans le théâtre.
À la porte du studio, vous avez un gars qui se tirait au bazooka.
Voilà, et vous êtes caché derrière le décor.
La tête de l'autruche, quoi. On se met derrière un décor qui fait 2 mm d'épaisseur. Mais non, mais ce qui est par contre étonnant, c'est que j'ai tout à fait le droit de partir. Dès le lendemain. Et que je ne pars pas. C'est ça qui m'a étonné chez moi. Pourtant, quand je ne suis pas content. Et je ne pars pas. Alors que j'aurais dit, écoutez, j'en ai marre, ça suffit, on arrête les conneries, j'ai pas envie de crever pour des prunes. Je pars, trouvez-moi là. Personne ne pouvait rien dire. Et non, je ne pars pas, je reste pendant 2 mois.
Et le dernier jour, la réalisatrice se cache dans le coffre de votre voiture pour passer dans Beyrouth Est, où elle veut tourner la dernière scène.
Oui, parce qu'elle est condamnée.
Elle est condamnée à mort. Mais elle vous l'avait pas dit, ça non plus. Elle est condamnée à mort par les milices chrétiennes, par les phalangistes. Ouais, et donc, il faut qu'elle se cache. Et vous êtes dans la voiture. Elle dit, mais s'il la trouve,
c'est complètement fou. Parce qu'en plus, il faut dire que tous les barrages là-bas, il y en a un tous les kilomètres. Et en plus, les barrages sont différents les uns les autres. Il y en a qui font des selfies. Enfin, c'est pas des selfies à l'époque, mais ils prennent une photo. D'autres vous disent, ah, français, Bardot de Gaulle, à l'époque c'était ça. Et puis il y en a d'autres qui carrément vous poussent sur la voiture, vous fouillent comme si vous étiez le plus grand des criminels, d'autres qui vous foutent la mitraille. Enfin, c'est tellement différent qu'on se dit, mais à un moment donné, il se peut très bien qu'il y en ait un qui dise, tiens, ouvrez le coffre. Et là, avec une femme dedans recroquevillée, alors déjà, c'est extrêmement problématique. Et en plus de ça, on se rend compte qu'elle est condamnée à mort là-bas. Donc ça fait beaucoup.
Alors, vous ne vous épargnez rien dans ce livre. Vous racontez une scène où il y a le producteur que vous appelez Tarak. J'imagine que c'est Tarak Ben Amar.
Non, c'est pas lui.
C'est un autre producteur. Alors, il fallait pas l'appeler Tarak parce que tout le monde pense à Tarak Ben Amar. En tout cas, il vous emmène en télécabine pour vous payer en liquide, en petite coupure.
Oui, ça, voilà. Je trouve ça totalement surréaliste.
Mais surtout, c'est que vous avez peur des œufs. Vous avez peur des télécabines.
Parce que aussi, la peur là aussi, parce que alors il faut le dire, mais moi, télécabine ou télésiège, je sais pas, mais je ne peux pas, je hurle maman, maman. C'est depuis toute mon enfance.
Jamais c'est fou, un gros colosse comme vous.
Bah oui, c'est un gros trouillard. Non, mais c'est vrai, je suis comme ça. Et alors, non seulement on se retrouve à Est, à Beyrouth-Est, en plus dans le téléphérique, mais un téléphérique de Beyrouth, qui a vécu la guerre, qui est rouillé, qui fait ce grogne, 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 qui balance dans tous les côtés. Je me dis, mais s'il y en a un qui va se casser la gueule, c'est bien celui-là. Et en plus, le gars, c'est pour me filer du fric en liquide.
C'est peut-être pour que vous le
rencontriez pas. Discret. Je trouve ça d'un surréalisme total. On est plus discret là-haut sur l'œuf. Il y a des moyens d'être discret sans aller dans ce
machin. C'est peut-être pour pas que vous recontiez combien il vous a donné. C'est peut-être pour ça. Ça s'intitule Paris-Beyrouth et ça vient de sortir au Cherche-Midi. On se retrouve dans un instant, on va parler de Crise de nerfs. C'est trois farces de Tchekhov que vous allez jouer à Théâtre de l'Atelier à partir du 22 septembre.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Jacques Weber, Tchekhov est célèbre pour La Mouette, Oncle Vania, Les Trois Sœurs, La Cerisaie, les grandes pièces en quatre actes de la fin de sa vie, mais il est également réputé, notamment chez les acteurs, dans le monde du théâtre, pour ses petites pièces en un acte qu'il a écrites entre 25 et 30 ans. À partir de 1888, il avait décidé de gagner sa vie uniquement comme ça. Il s'était dit, voilà, je peux en écrire une centaine par an, ça va jaillir comme le pétrole en Azerbaïdjan. C'est vraiment ce qu'il avait dit à l'époque. Oui, oui, oui. Ce sont ces petites pièces que vous êtes allé chercher, que vous avez réuni, vous en avez pris trois.
Oui, mais c'est surtout le fait que ça fait, j'ai déjà un long compagnonnage avec un homme qui est, pas seulement à mes yeux, mais aux yeux de la plupart des gens de théâtre, un des plus grands metteurs en scène du XXe siècle, enfin de la seconde partie du XXe siècle, je veux dire Peter Stein, le créateur de la Showbühne, c'était l'égal allemand de Giorgio Strehler en Italie, et qui a influencé Blanchon, Chéreau et toute la bande. Et cet homme est considéré dans le monde entier, Russie comprise, Stanislavien compris, comme le grand spécialiste de Tchekhov. Donc j'ai trouvé extraordinaire d'aller revisiter ces pièces qui, comme vous le dites, sont extrêmement connues dans les cours d'art dramatique. Tout le monde s'est tapé le chant du cygne ou les méfaits du tabac.
Oui, ça dure 20 minutes.
Ah bah oui, c'est des petites scènes pour un concours. Et puis en plus, c'est tellement bien écrit, c'est tellement magnifiquement écrit et tellement humain que bon, bah, c'est un numéro formidable. Mais je l'ai fait surtout parce que j'étais accompagné par ce formidable directeur d'acteur et grand homme qu'est Peter Stein.
Alors, il y a La Demande en mariage, par exemple, c'est par là que vous finissez. Il faut dire que c'est absolument hilarant.
C'est une mécanique, contrairement au méfait du tabac et au chant du cygne. Alors, il y a toujours c'est toujours pétri de cette humanité tchékovienne où on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose et en fait, tout se passe à l'intérieur d'une phrase. En fait, c'est très farcesque. Il y a une rythmique qui est absolument farcesque.
C'est celle du vaudeville, quasiment.
Et en même temps, à l'intérieur, il y a toujours des drames absolument abominables. Cette pauvre fillette qu'on n'arrive pas à marier, ce type épouvantablement lâche qu'elle jeune mariée. Enfin, et puis le côté usurier de l'histoire est incroyable.
Il y a également Les Méfaits du tabac, c'est une parodie de conférence. Ça aussi, c'est très très drôle. Mais je voudrais qu'on s'arrête sur le chant du cygne par lequel vous commencez ce spectacle.
C'est d'abord une petite nouvelle.
Là, c'est une pièce en un acte. C'est un vieil acteur comique qui s'endort ivre dans sa loge et quand il se réveille, le théâtre est fermé et désert, impossible de sortir. Il le dit lui-même d'ailleurs, ça fait 45 ans qu'il se voit à la scène et c'est la première fois qu'il se retrouve seul la nuit dans un théâtre, ça l'angoisse, il a carrément peur. Je me suis demandé si vous aviez connu la même trouille. Alors, maintenant qu'on peut parler de vos peurs, Jacques Weber.
C'est vrai que ça m'est arrivé de me retrouver seul, pas me réveillant ivre-mort. Enfin, il se pouvait que j'étais ivre-mort dans un théâtre, ça m'est arrivé. Mais me réveiller seul dans un théâtre, non, mais ça m'est arrivé de me retrouver seul, mais en le décidant. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très mystérieux, très lourd, très pesant, qui est là et qui fout un peu les jetons. Quand il dit que la mort rôde ou que les fantômes invoquent les esprits, c'est le lieu idéal, c'est vrai.
Bon, il ne reste pas seul longtemps. Il tombe sur son ancien souffleur qui s'est réfugié ici la nuit parce qu'il n'a nulle part où dormir. Vous avez connu les souffleurs, vous, il n'y en a plus aujourd'hui. Mais à vos débuts, dans les années 70, il y avait encore des souffleurs de théâtre.
J'ai un certain âge, mais pas au point d'avoir. Mais j'ai vu des pièces où il y avait des souffleurs. Oui. Ouais. À la Comédie Française, entre autres, il y avait encore cette petite bosse et le mec qui soufflait comme ça. Mais maintenant, nous, on a l'oreillette, on a le compteur.
Oui, on a plein de trucs.
Il y a plein de choses.
Donc c'est un acteur comique, c'est une farce, c'est extrêmement drôle. Vous êtes vous-même maquillé dans ce spectacle, si on en croit l'affiche, parce que ça n'a pas encore commencé. Et c'est un acteur comique qui sait qu'on a beau l'adorer, en fait on le méprise, il n'est qu'un bouffon, un jouet à distraire les oisifs, dit-il.
Là c'est déjà une grande une grande férocité sur les, sur les acteurs et sur la relativité de l'importance du théâtre.
Et surtout de l'acteur comique. Et je me suis posé la question, en ce qui vous concerne, Jacques Weber, c'est vrai que vous n'avez joué dans des comédies au cinéma qu'après 50 ans. Oui. Vous allez jouer avec Didier Bourdon ou avec Alain Chabat. Et mais même au théâtre, je me suis demandé, a-t-il joué véritablement, avant celle-ci, une véritable farce?
Alors, ça met une farce, non. Ce qui m'est arrivé, c'est de jouer une comédie. Je me souviens, c'était d'ailleurs avec Peter Stein. C'était le Prix Martin, c'était du Labiche. Mais vous savez, la comédie n'est autre que l'opposition, on l'a toujours dit, entre les deux extrêmes de, toutes nos existences, qui sont la farce et le tragique, certes. Mais, et puis, il y a une race tout à fait à part qui me semble être l'acteur comique. Je ne suis pas un acteur comique. Vigret est un acteur comique de génie, et je peux en citer tellement
d'autres. Et ils souffrent tous, on dirait, de ne pas être reconnus.
Et souvent, d'ailleurs, ce sont des acteurs sublimes. Du drame. Regardez Bourvil, dont on avait dit définitivement que c'était un acteur comique, et c'était un gars qui pouvait être un des types les plus bouleversants qui soit. Funès voulait jouer Claudel au début. Ça aurait été bien d'entendre Funès jouer du Paul Claudel.
On cite toujours le cas de Coluche qui a son César quand il fait Ciao Pantin, mais Ciao Pantin, il a 3,5 expressions. Il est beaucoup moins bon acteur que dans Le Fou de Guerre, par exemple, de Dino Rizzi, où il est absolument prodigieux. On a tendance à toujours sublimer l'art dramatique au détriment de l'art comique.
C'est curieux ce que vous dites, parce qu'en même temps, ce qui vaut dans le Ciao Pantin, c'est l'homme qu'il était aussi. C'est cette espèce de façon d'être démuni dans sa chair. Quoi. Un homme un peu paumé, un peu perdu. Vous saviez que moi, j'ai assisté à un truc, ça je vous dis à ce couple, aux essais de Coluche pour jouer Hugolin dans Jean de Florette.
Et Manon des Sources, oui.
Manon des Sources. Ça se passait chez Montand devant Simone Signoret aux Trois Quarts aveugles. C'était tout à fait bouleversant.
C'est lui qui devait faire le rôle au départ, avant Daniel Auteuil.
Je les ai vus, les essais. Il avait une perruque rousse et tout. Il était absolument inouï. Alors après, ça ne s'est pas fait pour des raisons contractuelles. Et puis Auteuil a été génial aussi. Mais vraiment, j'étais très, très. Je me suis dit, tiens, c'est un type à la Bourvil. Il y a cette ambiguïté. Alors moi, je suis tout simplement un acteur, un comédien, peut-être d'abord. Et donc, je m'exprime sur l'un des terrains les plus usités dans notre métier, qui est celui de la comédie. Voilà.
Ce sera à partir du 22 septembre au Théâtre de l'Atelier. Ça s'intitule « Crise de nerfs », 3 farces de Tchekhov, mise en scène de Peter Stein avec Jacques Weber. Merci Jacques Weber d'être venu sur Europe 1.